On reprend les sens essentiels. Alors, on a fait le tiers du voyage à travers on est en train de traverser la Bible. On a fait le tiers du voyage à peu près, hein? Et ce qu'on va voir ce matin, ce que j'ai retenu dans la période de l'essor d'Israël, hein, il y avait le roi David, il y avait le roi Saül, il y avait Samuel. Mais une personne qui m'a toujours impressionné quand j'ai besoin de prière, là, c'est Anne. J'ai ce portrait-là qui est dans mon esprit, l'intercession de Anne. C'était quelque chose qui a fait qui... vous savez, quand on était dans le désert, à Fairview, et puis on savait pas où aller. Il y avait cette image-là d'Anne qui priait, « Seigneur, donne-nous ce que notre cœur désire. » Et je l'ai vu vraiment s'accomplir. Alors, ce qu'on voit maintenant, ça commence après 450 ans de juges. Les juges essayaient de ramener le peuple de Dieu, essayaient de ramener les Israélites, ils essayaient de les ramener à Dieu parce que il y a comme un refrain dans les juges si on avance, un cycle, on pourrait dire. Ça, c'est le premier chapitre, les premiers chapitres de juges, mais vous l'avez comme un refrain pratiquement à tous les chapitres. Ça revient. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont bénis, ils sont en paix, le succès. Et puis, tranquillement, pas vite, ils vont s'éloigner, ils vont... abandonner le Seigneur, ils vont se tourner vers les idoles et ils vont être asservis. L'Éternel les laisse aller entre les mains des ennemis, des païens autour. Et là, quand ils souffrent, quand ils sont malheureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Il envoie un libérateur, il envoie un juge. Et puis là, ils reviennent au Seigneur et là, ils retrouvent la paix. Ils sont bénis. Et puis après un certain temps, qu'est-ce qui arrive? Ça recommence, le cycle recommence. On a ça pendant tout le livre des juges. Le peuple est entré en terre promise. Ils avaient des promesses de devenir une grande nation qui allait bénir la terre en entier. Et puis là, pendant 450 ans, ils sont restés faibles, ils sont restés... dominés par les païens autour, les païens qui auraient dû chasser, ils sont asservis par ces païens-là. Et au milieu de ce désert-là spirituel, au milieu de cette faillite spirituelle, il y a un prophète qui va se lever. Vous savez c'est qui? Ceux qui ont lu? Samuel. Samuel va se lever, hein? Le dernier juge, on peut dire, en fonction. Et un prophète comme Paul parle de lui dans Actes, il dit, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel, il a comme marqué son époque, hein, depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là, les jours où Jésus allait venir. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, juifs, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Quelle est cette bénédiction-là qui était promise, qui était préfigurée dans l'Ancien Testament? C'est qu'il allait détourner chacun de ses iniquités. C'est l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Alors, Samuel a eu un rôle incroyable. Il a pris cette nation-là qui était dominée par les païens, qui était faible, et il a fait une nation puissante avec un roi glorieux qui s'appelait David, toute cette époque-là qui préfigurait le royaume de Dieu que Jésus allait apporter quelques années plus tard. Toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham allaient s'accomplir en Jésus, et il y a un David là qui anticipait ce temps-là où les nations allaient être bénies à travers le peuple. Maintenant, je pose la question, où est-ce qu'on en est dans ce cycle-là? Au Québec, on peut... où est-ce qu'on est rendu? Nous, au Québec, peut-être personnellement aussi, puis en tant qu'Église, on est où dans ce cycle-là? On part dans l'abondance, la sécurité, le confort. On tombe dans les richesses, les plaisirs, la vie sans Dieu. On est capable de vivre sans Dieu. C'est la malédiction, ça. Hein? D'être capable de se passer de Dieu. Je peux très bien vivre sans Dieu aujourd'hui, dans cette province, sans dépendre de Dieu. On croit ça. Bien sûr, c'est un mensonge. Mais on n'a pas besoin. Et tranquillement, on s'éloigne. On néglige le Seigneur, on néglige l'Église qui est le peuple de Dieu. Et on est livré à l'ennemi. On tombe dans la dépendance, dans l'oppression. Le diable a comme une porte d'entrée dans nos vies. On est malheureux et quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute ses détresses. Est-ce que ça a changé? Est-ce que l'humanité a changé? On peut retrouver ce même cycle-là. On peut le voir dans la vie de frères et sœurs. Tout autour qui s'habituent, ils sont bénis, sont au milieu de la richesse, de l'abondance, et là c'est un piège qui fait que on vit, on peut se passer de Dieu, et là les plaisirs, les tentations arrivent, on peut se payer à peu près n'importe quoi, peut-être. Si vous êtes immigrant, vous arrivez ici au Québec, vous étiez dans la démunie. Autrefois, vous arrivez ici, puis là, oups, toutes les portes s'ouvrent. On peut devenir riche, on peut avoir du plaisir, du confort, de la sécurité. Et là, de plus en plus, le Seigneur, l'Église, ça a de moins en moins de place dans nos vies. C'est le monde qui prend la place. Tous ces plaisirs-là qui prennent la place. Un piège. Vraiment un piège d'arriver dans cette société-là païenne qui a rejeté Dieu, qui se passe de Dieu facilement. Puis c'est facile de vivre là-dedans en sécurité, dans un certain confort, dans un certain plaisir. Mais on sait que ça ne comble pas. On le sait que ça comble pas. Hein? Il y a un choix à faire. Soit le choix des fils d'Élie, si vous avez lu l'histoire, qui étaient les prêtres, les sacrificateurs, qui étaient corrompus au bout. On pense qu'il y a de la corruption ici au Québec. Même dans le culte d'adoration, c'était corrompu. Hein? Ou bien le fils de Anne. Un choix. On ne pourrait pas parler de Samuel si ça n'était pas de sa mère. N'est-ce pas? Un modèle, en tout cas pour moi, un modèle de prière fervente, efficace. Et j'aimerais communiquer un peu ce désir-là d'avoir cette prière de âme. Hein? On peut le. J'ai même une photo d'elle. Hein? Prière fervente, prière du cœur, prière avec des émotions. Il y avait trois pasteurs qui étaient dans un bureau et la discussion théologique, c'était quelle est la meilleure position, dans quelle position qui va faire que la prière elle va être efficace. OK? Alors, le premier dit, moi, c'est les mains levées au ciel comme ça, comme une sorte de vase. Et puis, la bénédiction de Dieu, je peux la cueillir, je peux la ramasser, puis ça tombe sur moi. L'autre, il dit, moi, il dit, c'est à genoux. Il dit ça exprime que je suis soumis à Dieu, que je suis humble. Ça souligne la dépendance du Seigneur aussi et une sorte de révérence. On est agenouillé devant le Seigneur et ça c'est une bonne position pour prier. Le troisième lui, il dit la face contre terre. Ça là, vraiment tu veux exprimer à Dieu ton humilité, hein? Tu n'es que poussière, tu vas retourner à poussière, t'es rien. Ça, pour moi, c'est la position efficace. Et dans le bureau, il y avait un électricien qui était en train de réparer la ligne téléphonique. Et il dit, je peux-tu placer un mot? Et il dit, moi, là, la prière la plus puissante que j'ai faite, c'est quand j'étais suspendu par les chevilles au bout d'un poteau électrique et que je me balançais à l'envers à 40 pieds du sol. position efficace. Ça a pris bien dans ce temps-là. Il n'y a pas rien d'autre qui prend la place. Hein? Pas d'autre priorité. Aimeriez-vous faire un mime? Bon, répondez pas tous. Pas tous qui veulent faire un mime, mais on va mimer l'histoire de Anne, ça me prend Anne, Pénina, Élie et Elkana, le mari de Anne et Pénina. Les volontaires? Deux femmes, dans le fond, deux hommes. Voulez-vous que je vous nomme? C'est juste un mime. Vous allez avoir une phrase à dire. Pas compliqué. OK? Il manque un homme? OK, Hector? C'est deux femmes. Oui, les deux femmes de... Pas d'Hector. De Elkana. Oui, oui. Ben oui, ben oui. Vous êtes bonnes. Hein, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. OK, venez ici, on va faire un petit... Alors, je lis le texte, puis ils vont essayer de mimer du mieux qu'ils peuvent. Puis, ils ont une petite phrase à dire en quelque part. Il y avait un homme de Ramataim Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Ouais. Il y avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale, Pénina, ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors Anne pleurait et ne manquait pas, et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près du montant de la porte du temple. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient. Mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, « Bravo! » Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire-là? La première chose, c'est que Elkana et Anne étaient fidèles. Ils allaient à chaque année à Silo, c'est là où était l'Arche d'Alliance. En attendant que le temple soit bâti, il y avait le lieu le plus sacré chez les Juifs, chez les Hébreux à cette époque-là, c'était Silo, l'endroit où l'Arche d'Alliance était réservée. Alors, une fois par année, ils allaient à cet endroit-là. C'était probablement une des rares familles qui étaient restées fidèles au Seigneur, qui pratiquaient cette chose-là. Ensuite, Anne était stérile, on peut l'avancer. Et c'était la faute à qui? L'Éternel. L'Éternel l'avait rendu stérile. Est-ce qu'il y avait une explication à ça? Pas d'explication, sauf que Pénina en avait une explication, elle. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Anne n'avait pas d'enfant selon Pénina, d'après vous? À l'époque, c'était une malédiction. Hein? Elle avait mérité ça en quelque part. Et c'était comme une punition de Dieu de ne pas avoir d'enfant. C'était le rejet de la société, c'était comme une malédiction sur elle. Pénina culpabilise, Pénina, elle enfonce le clou, hein, enfonce le doigt dans la plaie, elle la déprécie, elle la méprise, elle se réjouit de son malheur, elle est jalouse. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Hein? Dans votre entourage? Des gens qui vont vous harceler, des gens qui vont vous mépriser, des gens qui vont vous... Ça peut arriver. Et il y a du monde comme ça, on dirait qu'ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour t'humilier, ils sont payés pour te mortifier, t'écraser. Et peut-être dans ce temps-là, quand vous voyez ces choses-là, dites-vous, oups, hein, une petite lumière rouge qui s'allume, qui dit... On n'a pas à lutter contre ces personnes-là méchantes ou jalouses. On a à lutter contre des esprits méchants qui se servent de ces personnes-là pour essayer de te t'abaisser, de te faire du mal. Hein? Alors, aie confiance au Seigneur. Si tu es dans cette position-là, tu as quelqu'un comme ça au travail ou à la maison ou à l'entourage ou qui est toujours là pour te mortifier, là. Hein? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient directement du diable. Et tu as juste à discerner cette attaque-là, cette oppression-là qui vient de l'ennemi, t'humilier et Dieu va te relever au moment convenable. N'est-ce pas? Alors, on n'a pas à lutter contre les personnes, mais discerner qu'il y a des esprits méchants derrière ça qui s'attaquent, qui veulent ta peau. Qu'est-ce qu'elle voulait, Elkana? Qu'elle se révolte contre l'Éternel. Hein? Est-ce que ça va marcher? Alors, pourtant, elle avait un bon mari, n'est-ce pas? Qui essayait de l'encourager, mais elle était inconsolable. Et ça, ça a duré pendant des années. Hein? Verset 7, c'est écrit, « Toutes les années, il en est ainsi. » À toutes les années, en plein culte d'adoration, Pénina en profite pour rappeler à Anne, sa déchéance, on peut dire, son malheur. Anne a l'appétit coupé, elle mange pas, elle pleure. Et c'est quoi son problème? C'est quoi le problème d'Anne? Qu'est-ce qui gâche sa vie? Qu'est-ce qui gâche sa relation de couple? Qu'est-ce qui gâche son adoration, même son culte? Toute son énergie, ses pensées sont... Sur son malheur, hein? Ouais. Est-ce que c'est la faute de son mari? Est-ce que c'est la faute de Pénina? Ça aide pas. C'est la faute de qui? Dites-le. De l'Éternel. C'est la faute de Dieu. Hein? Elle se sent, on peut avancer. Comment elle se sent? Ou c'était celle-là, en tout cas. Elle se sent, c'est écrit, oubliée. Attristée, mais peut-être on peut avancer, Ben. OK, c'est là. Éternel des armées, si ton regard s'arrête, hein, si tu, sur l'humiliation de ta chance, si tu te souviens de moi et n'oublie pas. Le Seigneur y oublie. Le Seigneur se souvient pas, son regard ne s'arrête pas sur elle. Hein? C'est ça le problème. Dieu semble avoir l'oublié, semble ne pas s'occuper d'elle. n'entend pas ses prières, ne répond pas à ses prières, ne fait pas attention, ne prend pas soin d'elle. C'est ce que les circonstances lui disent, c'est ce qu'elle peut ressentir. Mais le problème de Anne, c'est qu'elle ne peut pas croire ça. Elle peut pas croire ça. Elle peut pas croire ça. Elle peut pas croire ça. Que Dieu l'a oublié, que Dieu n'entend pas, que Dieu ne se souvient pas, que Dieu ne la regarde pas. Elle n'est pas capable, même désespérée, même impuissante, elle ne peut pas croire que Dieu l'a abandonnée. C'est impossible et elle continue pareil à venir à chaque année, même si elle va goûter à la médecine de Pénina, même si il n'y a rien de changé dans sa situation, elle continue à venir à l'église, si on peut dire. Est-ce que vous avez comme ça des besoins, des désirs légitimes pour lesquels vous priez à Dieu et que Dieu ne répond pas encore? Pour moi, le salut de mes enfants. Jusqu'ici, en tout cas, non, un, peut-être deux. Amen. Oui. Mais tu peux avoir l'impression que Dieu n'entend pas, que Dieu ne regarde pas, son regard ne s'arrête pas, prend pas le temps d'écouter, que Dieu oublie, qu'il reste sourd, et un danger après toutes ces années-là. Qu'est-ce qu'on fait? On se résigne. On baisse les bras. On n'espère plus parce qu'il n'y a aucun signe de vie. Aucun signe de vie. Au contraire. Alors, on cesse de prier. On prie peut-être pour la forme des lèvres, mais sans conviction, sans que vraiment il y ait une émotion, qu'on ressente quelque chose. C'est froid. Ça a bien l'air que Dieu ne veut pas. Hein? C'est la conclusion. Mais si on veut ressembler à Anne, elle a dit, non, je peux pas croire ça. Non, je ne peux pas croire ça et je ne veux pas croire ça, que c'est fini. Hein? Anne se lève. Est allée à Dieu, elle se lève. Et a pris comment? Des lèvres? L'amertume dans l'âme. Elle pleure beaucoup. L'esprit affligé. Elle épanchait, elle répandait son âme devant l'Éternel. L'excès de sa douleur et de son chagrin, elle exprimait à Dieu ce qu'elle avait sur le cœur. Elle prie avec son cœur. Avec ce qu'elle a dans le fond du cœur. Elle ne cache pas ses vrais sentiments. Et je pense que le pire obstacle à la prière, ce n'est pas qu'on n'a pas de sentiments, c'est qu'ils sont tellement pas beaux, tellement laids, qu'on n'ose même pas se les avouer à soi-même. Et encore moins à Dieu, qui ne voit pas ça, lui. Hein? Il voit pas. Alors on pense qu'en cachant ça, en se le cachant même à soi-même, cette détresse, cette amertume, cette affliction, ce chagrin-là, cette colère-là, on pense qu'en la cachant, la l'étouffant, mais ça fait des prières qui ne montent pas plus haut que notre nez. Hein? Ça retombe à terre sur nos pieds. Alors, grand obstacle, ne pas exprimer à Dieu ce qu'on ressent vraiment. Vis-à-vis ces désirs-là, ces aspirations-là, ce profond besoin qu'on a là, et de lâcher prise, de dire, bon, il veut pas, ça sert à rien, et je cesse de prier. Anne, elle a prié franchement au Seigneur. Elle a exprimé au Seigneur, et on peut faire ça. on peut dire au Seigneur ce qu'on a dans le fond du cœur. Que ce soit de l'amertume, de la colère, que ce soit de la douleur, on a le droit d'aller devant Dieu. Lisez les psaumes, vous allez en trouver des... Vous n'avez pas de mots pour mettre sur votre colère, vous allez en trouver dans les psaumes. Ça fait exactement ça, exprimer ce que je ressens devant Dieu, être vrai devant Dieu. De toute façon, Dieu sait ce qu'il a. Alors, pourquoi? Pourquoi le cacher? Pourquoi se le cacher? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a entendu? Verset suivant. Pourquoi est-ce que Dieu a entendu la prière d'Anne? Première chose, c'était? C'est quoi la première chose? Ouais, mais être vrai. Être vrai. Oui, la persévérance, certainement. Être vrai. Mais là, elle a fait un vœu. Hein? Elle a fait un vœu. Elle met, on pourrait dire, du poids à ses paroles. C'est pas juste des paroles vides. Elle s'engage, elle engage sa vie. Le vœu, c'était quoi? Je vais prendre cet enfant-là et je vais le consacrer à Dieu. Il y a un prix, là. N'est-ce pas? Pourquoi désirer tant un fils pour ne pas le voir grandir, pour ne pas... Spécial, hein? Une réponse un petit peu plus tard. Mais appuyer notre prière par des gestes. Ça peut être un jeûne. Un jeûne, ce que ça fait, ça met du poids dans nos prières. Et je vous garantis que si vous voulez passer du temps, consacrer du temps à la prière, je peux vous garantir que vous en trouverez pas. Lisez-moi, la semaine passée, on a prié à chaque jour pour nos enfants. On est revenu dans l'action ici, on n'a pas été capable de le faire de la semaine. Pas parce qu'on faisait des mauvaises affaires. Pourquoi? Trop occupé. Hein? On est trop occupé pour prendre le temps de prier. Est-ce que ça vous ressemble? Ça nous ressemble? On n'a pas le temps de prier. Puis je dirais que la foi dans la prière efficace est proportionnelle au temps de qualité que je passe dans la prière. Si je ne prie pas, mon frère, ma sœur, c'est parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas que ça va changer quelque chose. C'est aussi raide que ça. Hein? Ma sœur parlait des Haïtiens qui... Hein? Mais c'est ça. Si je ne prie pas, c'est parce que j'y crois pas. Si je prie, je prends le temps de prier, c'est parce que j'y crois. Hein? Donc, un vœu. La deuxième chose, c'est si tu daignes regarder ou si tu veux bien considérer la misère de ta servante. Ça, je pense, c'est une attitude d'humilité, de dire, OK, Seigneur, c'est toi qui es le boss. C'est pas moi, Seigneur Dieu, qui va te dire, qui va te commander qu'est-ce que tu dois faire. Je reste, même si j'exprime à Dieu tout ce que je désire, je reste ta servante, Seigneur. Alors, cette attitude-là, d'humilité. Et dans le fond, ça venait de Dieu, hein? Et sa prière était selon la volonté de Dieu? Mais oui, c'est Dieu qui voulait un Samuel. Il voulait un Samuel. C'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. Dieu met des choses dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, il met des choses dans ton cœur. Ne cesse pas d'y croire. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas. Prends le temps. Appuie ta prière. Continue, comme Anne, à intercéder. Pourquoi est-ce que elle a désiré tant un fils pour ensuite s'en séparer? Quelle est la réponse? Elle avait à cœur surtout la gloire et le service de Dieu. Ça, c'est la réponse. Elle était contente de donner son fils parce qu'elle allait servir à l'œuvre du Seigneur. Alors Dieu prend plaisir à mettre des choses dans notre cœur parce qu'il a besoin de toi pour l'accomplir. On a une belle nouvelle année devant nous, là. Et Dieu, il a mis une flamme dans ton cœur. Dans chaque chrétien, il y a une flamme qui brûle pour accomplir quelque chose, peut-être une petite affaire. Si t'es fidèle dans les petites, il va t'en confier des plus grandes. Alors, persévérons dans la prière. Mettons le temps qu'il faut. Hein? Et la réponse, pour finir, on l'a vu tantôt. Samuel dit « Va en paix ». Pardon, Élie lui dit « Va en paix ». Et elle s'en va. Et dans le cours de l'année, Anne devient sainte. Et finalement, elle a la réponse à sa prière. Alors, 5 minutes avant, elle était déprimée, amère. Elle se relève, puis elle sait que Dieu a entendu sa prière. Et elle trouve la paix. Il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament qui dit exactement ça? Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, par la prière et la supplication. Mettez du poids à vos prières. Prenez le temps de prier, jeûner, pour dire à Dieu, « Seigneur, je peux pas croire que ça va finir de même pour ma mère, pour mes enfants, pour... Je peux pas accepter ça, Seigneur. » Hein? Non, ça finira pas comme ça. Avec des actions de grâce, ça c'est la preuve que je suis libéré du fardeau. Merci, Seigneur. Quand on dit « Merci, Seigneur », les deux pieds dans la là, c'est fort. Faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse tout. Qu'est-ce que Anne a reçu en conséquence? La paix de Dieu, hein, qui a gardé son cœur et ses pensées en Jésus. Pour terminer, il y a une lettre de notre président qui cite Tazer. Une caractéristique qui distingue l'Église d'aujourd'hui, c'est le manque d'anticipation. Les chrétiens qui se réunissent ne s'attendent pas à voir quelque chose hors du commun se passer. En conséquence, seulement ce qui est commun arrive, et ce commun est aussi prévisible que le coucher du soleil. Nous avons besoin aujourd'hui d'un esprit frais d'anticipation qui jaillit des promesses de Dieu. Nous devons déclarer la guerre à l'attitude qui ne s'attend à rien et nous réunir ensemble avec une foi d'enfant. Seulement à ce moment-là pouvons-nous connaître à nouveau la beauté et la merveille de la présence du Seigneur Jésus parmi nous. Et David Hearn dit, peut-être pouvons-nous prendre un risque et nous attendre de façon toute nouvelle à voir Dieu se manifester parmi nous. Je suis profondément en accord avec le défi de Tazer de déclarer la guerre à l'attitude qui ne s'attend à rien et nous réunir ensemble avec une foi d'enfant, avec une grande attente. Amen. Wow. Alors qu'on puisse s'encourager et ne pas lâcher. Hein? Ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, on peut prier ensemble. Seigneur, je ne sais pas où chacun est rendu ici dans le cycle de l'infidélité ou de la fidélité, mais Seigneur, que tes paroles ce matin puissent allumer quelque chose dans le cœur de mon frère et de ma sœur, ou rallumer une flamme, rallumer un désir, une passion peut-être qu'on a abandonnée. Et que, Seigneur, chacun d'entre nous, on y mette du poids dans nos prières. Qu'on le fasse pour nos besoins personnels, mais qu'on le fasse aussi pour nos besoins en Église. Seigneur, cette Église-là a des grands besoins. Le Québec a des grands besoins. Haïti a des grands besoins. Cuba a des grands besoins. Et combien d'autres, Seigneur Dieu, que tu mets sur notre route, que tu mets à cœur. Alors, Père Céleste, entends ce matin les cris de nos prières, des prières comme celle de Anne. On te les apporte dans le beau nom de Jésus. Amen.